Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce carnet de région, un journal d'actualité locale proposé par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Au sommaire de ce carnet de région pour cette semaine, nous allons parler de démographie en Lozère, puis nous irons dans l'Hérault pour découvrir un droit qui s'est perdu peu à peu, celui du grappillage. Ensuite, direction le Gard et les Cévennes pour parler du FIRA, pour Festival de la Randonnée et de l'Aventure, puis du côté de Saint-Ambroix, toujours dans le Gard, pour évoquer le salon Vivre Livre, qui fête sa 12e édition cette année. Et enfin, retour en Lozère pour parler d'une fête connue et reconnue, celle de la soupe.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et on commence donc en Lozère, où, à l'invitation du conseil général de ce département, le directeur de l'INSEE du Languedoc-Roussillon, M. Francis Vénat, est venu présenter les chiffres sur la démographie lozérienne et notamment les migrations. Une enquête sur 5 ans commandée par le conseil général qui doit permettre d'adapter la politique publique du département, car les enseignements sont nombreux. Le département accueille chaque année depuis la fin des années 90 2000 nouveaux arrivants pour environ 1400 départs. Un solde migratoire positif qui compense le solde naturel qui voit plus de décès que de naissances dans le département. Alors qui sont ces nouveaux arrivants? La réponse de Francis Vénat, directeur de l'INSEE Languedoc-Roussillon, au micro de Ludovic Terrol de 48 FM Mende.
Alors les nouveaux arrivants, on peut les classer soit en structure d'âge, soit en structure de dans quel ménage, etc. Donc ce sont plutôt des populations jeunes, mais moins jeunes en moyenne quand même que la population résidente. Et ce sont surtout des gens, pour à peu près la moitié, qui sont soit en emploi, soit en recherche d'emploi. Les migrations se font en effet de manière très générale, que ce soit des migrations internationales ou des migrations résidentielles en France, comme celles qu'on utilise ici, se font lorsque les distances sont courtes. Mais ce qu'on observe là, qui était un peu inattendu, c'est que ces migrations sont surtout en provenance du Gard et de l'Hérault, donc une proximité de la région, et aussi de l'Aveyron.
Au niveau des projections, est-ce que atteindre 100 000 personnes en 2040 est envisageable ?
Écoutez, alors nous, on a fait des projections de population, c'est-à-dire qu'on regarde les comportements de fécondité, de mortalité, les comportements de migration, et on projette avec des petites variantes, et on se rend compte que on sera à peu près à l'horizon 2040 à 0,6 par an, donc ce qui est un peu en dessous de l'objectif des 100 000. Bon. Évidemment, ce ne sont que des projections. C'est-à-dire que derrière, et c'est bien l'objet du partenariat, c'est qu'il y a des politiques publiques qui peuvent infléchir, par exemple, par une politique d'accueil plus dynamique ou par une politique d'offre universitaire, etc., etc. Donc, les 100 000, si vous voulez, ne sont pas déduits de la projection, mais c'est justement livré à la réflexion des politiques publiques.
Par ailleurs, l'enquête indique que les entrants s'installent dans les communes les plus peuplées, Mende, Saint-Chély, Marvejols, Lacanourgue ou encore Langogne, et dans une moindre mesure dans les villes limitrophes des autres départements. Les entrants viennent travailler pour la majorité dans la fonction publique. Concernant les autres corps de métier, notamment les artisans ou les agriculteurs, on apprend, grâce à cette étude, que les arrivées ne devraient pas dans le futur compenser les départs à la retraite. C'est une reconnaissance de la Fondation de France pour une initiative locale intitulée « Les fruits de la galère », autrement dit la remise au goût du jour du droit à grappiller qui s'est perdu peu à peu. C'est-à-dire, après récolte, les fruits restants peuvent être ramassés gratuitement. L'idée est venue de Serge Azé, viticulteur de la cave coopérative de Montagnac, et de Gilles Senati, président du lieu ressources de Pézenas, d'associer les deux structures pour grappiller du raisin et faire du vin. Gilles Senati est par ailleurs magistrat et il revient sur la notion juridique du grappillage au micro de Robert Martin de Radio Pays d'Hérault.
Eh bien, le droit de grappillage ou de glanage, c'est un droit d'usage, c'est-à-dire que c'est un droit qui n'existe que si on l'utilise. Donc il peut effectivement disparaître au bout de 30 ans par exemple. Donc évidemment c'est un droit qui existait dans la région, dans toutes les régions agricoles et viticoles pour le grappillage. Et donc il existe depuis au moins avant la Révolution française. C'est un droit qui était concédé aux personnes qui étaient indigentes pour devenir après la récolte ramasser ce qui restait. En gros c'est ça. Hein. Donc ramasser à la fois le raisin, bon, bien sûr pour faire du vin de grappillage. Et puis le glanage, c'est de ramasser aussi les fruits ou les légumes qui n'ont pas été ramassés. Et ensuite, de les utiliser pour pouvoir manger. Hein.
Alors ce droit, c'était dans toute la France, et quelles que soient les récoltes ?
Alors c'était un droit dans toute la France, on distinguait deux types de droits, et il existe toujours, donc deux types de droits, le grappillage et le clanage. Alors le grappillage, c'est le fait de venir entre le lever du soleil et le coucher du soleil dans une vigne qui n'est pas clos, avec un instrument pour couper, pour ramasser le raisin après la vendange, c'est grappillage. Et puis le clanage, c'est le fait d'aller aussi dans un champ qui n'est pas clos, entre le lever du jour et la fin de la journée, pour ramasser des fruits et des légumes. Évidemment, ces droits sont réservés, le dit tous les textes qu'on a pu consulter un peu partout, aux indigents, c'est-à-dire aux personnes qui sont pauvres.
Alors, dans une France où il y a à peu près aujourd'hui 8,5 millions de pauvres, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce droit devrait revenir un peu d'usage et éviterait, j'allais presque dire, le vol ou la délinquance ?
C'est tout à fait, c'est le circuit court immédiat. Et effectivement, ce droit d'usage qui est un droit qui permet en fait de rencontrer, de pas cacher la pauvreté finalement. C'est ça, c'est les propriétaires qui sont propriétaires de leur récolte qui à un moment donné disent stop, là on a fini de ramasser et le reste ça sera pour les pauvres. Donc c'est la part du pauvre en fait. Hein. Et effectivement, ce droit à mon avis a beaucoup d'intérêt. Alors un intérêt à la fois évidemment alimentaire bien sûr, mais aussi intérêt dans le lien social. C'est-à-dire qu'on renoue le dialogue entre les personnes qui sont dans la cité, qui sont pauvres, et puis les personnes qui sont propriétaires. Et donc ça évite parfois peut-être ce dialogue que l'on puisse sortir après avec la carabine et tirer sur les personnes qui viennent ramasser quelques fruits et légumes.
Le grappillage de raisins à Montagnac a permis de produire 4800 bouteilles qui portent le nom de fruits de la galère vendus au profit du lieu ressource de Pézenas, association d'aide aux précaires, et cette initiative vient de recevoir la plus haute distinction de la Fondation de France.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Le festival de la randonnée en Cévennes se déroulera du 1er au 4 novembre prochain. Le thème pour cette année, c'est l'eau, richesse et fléau des Cévennes. Pendant ces 4 jours de festival, 41 randonnées sont organisées et c'est encore entre 600 et 800 personnes qui sont attendues dans les Cévennes pour y participer. Lucien Afforti, le président du FIRA, le Festival International de la Randonnée et de l'Aventure, nous en parle en répondant par téléphone aux questions de Noélie Guy de Radio Intervalle.
FIRA, ça veut dire Festival International de la Randonnée et de l'Aventure. Donc ce concept randonnée en Cévennes et aventure en Cévennes est né en 1990, ici à Saint-Jean-du-Gard, qui est un peu le berceau de cette association que je préside aujourd'hui. Et il est né sur le concept suivant, c'est-à-dire que ici à Saint-Jean-du-Gard, donc vous savez, le Robert Louis Stevenson a randonné, c'est le premier randonneur d'avant-garde, qui a randonné ici à travers les Cévennes de Monastier-sur-Gazeille jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, point d'arrivée, le 22 septembre 1878. Et puis il a fait un livre qui est très connu ici et en France, hein, qui est assez connu, moins que l'île au trésor, mais qui est assez connu. Et puis on s'est dit qu'effectivement c'était un concept intéressant et qu'on pouvait essayer d'organiser sur ces vallées, qui sont très belles, hein, les Cévennes, sur ces vallées on pouvait organiser des randonnées et peut-être mettre un point dans l'année. Cette année, il y en a deux, mais enfin, depuis quelques temps, il y en a deux, mais avant, il n'y en avait qu'un seul. Et on pouvait organiser une quarantaine de randonnées à thème, avec des accompagnateurs. Et puis, les gens qui venaient pouvaient être intéressés pour randonner en dehors de cet événementiel, toute l'année, puisqu'on peut randonner toute l'année également. Donc c'était un peu le concept, disant, on va faire des Cévennes. Les chemins de randonnée, on va les mettre au goût du jour, et puis ça a été fait petit à petit, et aujourd'hui, effectivement, il y a deux sessions dans l'année, donc il y a une session à l'Ascension, et puis une session à Toussaint, donc celle qui va avoir lieu du 1er au 4 novembre prochain, et donc il y a 41 randonnées qui sont proposées. Alors c'est pas, on ne se rassemble pas tous dans un même point, il y a 41 points de départ de randonnée, ça qui dure la journée, des fois il y en a une qui a, où il y a deux jours. Mais ce sont des randonnées à thème, donc il y a un accompagnateur de montagne ou un accompagnateur tout court qui est là depuis le matin jusqu'au soir. Et puis à midi, il y a une halte dans un gîte chez un paysan et qui permet de manger avec les produits du terroir et les produits locaux. Voilà un peu quel est le système du FIRA. Et puis depuis quelques années également, on a mis au goût du jour et à l'ordre du jour, par an, un thème général. Et cette année, le thème général, c'est l'eau, richesse et fléau des Cévennes. Alors pourquoi l'eau, richesse et fléau des Cévennes ? Parce qu'effectivement, ce pays qui a été construit par la main de l'homme On y voit partout les systèmes d'irrigation qui ont été imaginés par nos ancêtres et mis en place sur le terrain pour pouvoir irriguer l'ensemble des terrasses, puisque ce sont des bancelles, l'ensemble des terrasses pour pouvoir retenir l'eau quand elle tombe et puis irriguer toute l'année, ou en tout cas une grande partie de l'année, les terrasses pour les cultiver. Donc ça, c'est la richesse. Et puis le fléau, c'est évidemment les épisodes cévenols qui, de temps en temps, en une heure, deux heures de temps, ravagent tout sur son passage. Hein, quand les eaux se grondent, bien, on a eu des épisodes terribles avec des pertes de vie humaine, des pertes de matériel moins graves. Enfin bon, c'est un peu le fléau-là, c'est ce qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'on ne peut pas le maîtriser par des barrages, on ne peut pas le maîtriser par rien. L'eau, quand elle tombe, eh bien, il faut qu'elle s'évacue, et elle s'évacue comme ça, terriblement pour les gens qui vivent ici et pour la totalité de leur patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème cette année, parce que d'autant plus que le réchauffement climatique va faire en sorte que l'eau qui va tomber du ciel va se raréfier et que les températures vont augmenter, et qu'on se demande si on aura dans quelques années assez d'eau pour l'agriculture, pour faire boire les animaux, pour faire boire les populations qui viendront dans nos coins.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le salon Vivre Livre, qui est un salon du livre et des métiers du livre, fête sa 12e édition cette année. Il se déroulera à Saint-Ambroise les 10 et 11 novembre prochains. Cette année, le thème sera la gastronomie à travers les âges. Ce salon est organisé par l'association La Fenêtre. Michèle Delarocque est présidente de l'association. Elle a parlé à Olivier Ladette de Radio 16 du programme de cette année et plus spécifiquement d'une exposition, la mise de table du Moyen-Âge à la Renaissance, une exposition proposée par Laurence Magnanelli, costumière historique et habilleuse travaillant pour le théâtre et le cinéma.
Une exposition qui est créée de toutes pièces par Laurence Magnanelli, qui est très connue comme décoratrice et costumière de théâtre et de cinéma. Là, pour rester dans la thématique de notre salon, elle nous propose une exposition du rituel de mise de table de la Renaissance jusqu'à Louis XIII. En fait, ça concerne les costumes, la mise de table avec tout ce qui est vaisselle, couvert, tous les ustensiles en fait, les nappes, tout ce côté un peu fabuleux des repas extraordinaires que l'on pouvait faire dans la haute société de l'époque. Et l'ensemble est vraiment remarquable, et je pense que c'est quelque chose qui va servir de mise en bouche en fait pour annoncer le salon, puisque son exposition va durer dans cette salle des mariages de la mairie de Saint-Ambroise du 2 au 8 novembre au soir. Alors justement, elle tient absolument à être présente, parce que d'abord elle préfère être présente de tout ce qu'elle expose, ce sont quand même des pièces rares, des pièces choisies qui ont quand même une certaine importance. Et d'autre part, c'est quelqu'un de très passionné qui a envie de faire partager cette passion au maximum de gens qui viendront admirer ce qu'elle a fait.
Le salon Vivre Livre, c'est donc à Saint-Ambroise les 10 et 11 novembre prochains. Et pour finir ce carnet de région, retour en Lozère avec ce qui est désormais devenu une institution à Florac et qui rayonne maintenant bien plus largement au niveau national. Je parle bien sûr du Festival de la Soupe. Après un renouveau de ce festival en 2010, les éditions se succèdent tous les automnes dans la sous-préfecture lozérienne. Cette année, elle se tiendra du jeudi 1er novembre au samedi 3. Monette Lagarve fait partie des bénévoles de ce festival et elle a répondu aux questions d'Anna Ménétrier de 48FM Florac.
C'est le 13e Festival de la Soupe qui cette année aura lieu le jeudi 1er novembre, le vendredi 2 et le samedi 3 novembre. Et il y aura 3 jours entiers de soupe et de fête. C'est un événement vraiment qui s'est ancré dans le paysage culturel de Florac, on peut le dire. Au départ, l'idée était de clore la saison touristique à Florac par un événement qui aurait amené un petit peu de monde. Et on a pensé au départ faire quelque chose sur un thème automnal. Et puis l'idée de la soupe est venue. Elle a plu à tout le monde. Et avec une petite poignée de personnes, dont certaines sont encore aujourd'hui dans l'organisation de ce festival, et ben on a lancé l'événement. Dont l'idée principale, c'était quand même de pouvoir offrir aux gens de la soupe et de la musique. Et quand je dis offrir, ça voulait dire quelque chose de gratuit. On le sait, certaines personnes se déplacent des quatre coins de l'Hexagone pour participer au Festival de la Soupe. L'année dernière, on a pu accueillir 5000 personnes. Les gens sont dans la rue, n'ont pas peur d'affronter l'automne en Cévennes. Puis la soupe, ça réchauffe. Hein. La fête se passe au centre de Florac. Le point fort, c'est le bol. Il coûtera 8 euros et il pourra être le pass pour aller manger de la soupe durant 3 jours. Acheter ce bol, c'est très important parce que c'est le moyen le plus important pour notre association d'avoir des finances pour pouvoir organiser l'événement. 3 jours de soupe, 3 jours de concert, 3 jours d'événements. Il y en a pour les grands, pour les petits, il y en a tout public. À part le vendredi soir où il y a le bal du mois à la salle des fêtes, tout se passe dans la rue, tout se passe dehors. Il y a de la musique, il y a un groupe qui s'appelle Ubangimen, le mystère des éléphants, le Claymore Clan, il y a des clowns, El Mundo Costrini, et encore, il y aura un atelier trompe-l'œil, un atelier de sérigraphie artisanale. La galerie Art Point de Suspension proposera une exposition. Il y aura à la Jeunette Verte un stage hip-hop. Et puis il y a le foyer rural qui fait un atelier de costumes. Il y a un gros programme. Et puis après, il y a aussi le grand moment du festival, qui est le concours de soupe. Quand on vient acheter son bol, on a 3 petits cailloux de couleur. Les participants au concours ont une boîte devant eux. On vote pour la soupe que l'on préfère en mettant le petit caillou dans la boîte devant le stand. Et le vainqueur, c'est celui qui a la boîte la plus lourde. Ça, c'était une nouveauté.
Alors, pour tous les amateurs, à vos cuillères, bols et autres marmites, et rendez-vous du 1er au 3 novembre prochain du côté de Florac.
Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est la fin de ce carnet de région, journal d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Et pour cette semaine, c'était Radio Escapade qui s'est occupée de le réaliser. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour encore plus d'informations sur votre région.